Et aujourd'hui, c'est une interview absolument fantastique qui m'est accordée grâce à Ellie du collectif indépendant Culture Bot. On a la chance d'avoir un plateau qui incarne la scène alternative, le punk, le militantisme culturel et rural aujourd'hui. Dans quelques heures, ça va trembler chez Open Block pour un concert co-organisé avec Culture Bot et le Capharnaüm. Autour de la table, on a les Ramoneurs de Menhir, Ellie du collectif Culture Bot, notre chef d'orchestre du jour, et la surprise de dernière minute, Bon à Rien également avec nous. Comment ça va tout le monde ?
Très bien, très bien. Alors je tiens à dire une chose, c'est le bon à tout en fait.
Oui, tout à fait. Voilà.
On vous connaît bien, on vous présente souvent, mais si vous deviez vous présenter avec vos propres mots à vous déjà, ça donnerait quoi ?
Alors moi, salut, moi c'est Laurane, guitariste et chanteur aussi des Ramoneurs de Menhir. Alors c'est simple, les Ramoneurs de Menhir mélangent le traditionnel breton avec le traditionnel punk rock. Et le lien entre les deux, bien sûr, c'est l'esprit d'insoumission. Voilà, ça c'est la base. Moi, je fais de la musique depuis que j'ai 13 ans. J'ai vu Patti Smith à 12 ans, c'était mon premier concert. J'ai pris une grosse claque et j'ai dit à mon copain, quand on sera grand, on fera un groupe de rock. Et ça fait maintenant 49 ans. Voilà. Là où je suis content, c'est que je n'ai jamais été intermittent, par exemple. Ça, c'est un choix politique. Je ne serai jamais le bouffon du gouvernement français. Voilà, c'est un peu dans le même esprit que les radios pirates et les radios libres en fait. Parce que la différence finalement entre un pirate et un corsaire, c'est que le pirate, il roule pas pour le roi. Voilà.
Ouais, bah, je m'appelle Steph, je joue dans le groupe Bon à Rien, un groupe où je suis tout seul, ça s'appelle un One Man Punk Bang parce qu'on n'a pas trouvé de nom en français. Dans le temps, ça s'appelait Nul à Chier. Bah, je viens du monde alternatif, c'est-à-dire j'avais un travail, j'ai gardé le travail. Et à l'époque, il y avait débat entre travailler dans la musique ou avoir un travail et faire la musique. Et j'ai choisi, parce que j'avais senti l'arnaque, un peu comme vient de dire Laurane. Travailler dans la musique, ça devenait compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à me situer. Donc je préférais garder mon travail et puis faire la musique à côté. D'une manière un petit peu comme militante, mais en troisième division. C'est-à-dire, tu vois, j'ai toujours aimé rester petit, tu vois. Mais surtout les projets, parce que je viens du monde alternatif, c'est-à-dire le monde des associations. Laurane en parle souvent. C'est-à-dire quand tu es dans une association, tu fais tout, la preuve ici. Hein. Tu organises, tu enregistres des groupes, tu as toi-même ton groupe, tu crées des fanzines. Tu vois, c'est un monde parallèle et ben, je suis resté là-dedans, mais toujours petit, parce que c'est ma nature. Quoi. J'aime bien ce truc-là. Voilà.
Alors je voulais dire un petit mot à ce propos. Alors je suis entièrement d'accord à ce qui vient d'être dit, mais quand même... nous, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive à développer une économie alternative aussi. Je trouve ça intéressant parce que faut pas avoir peur de l'argent. L'argent est un outil indispensable. Voilà, on est dans un système où c'est indispensable, mais tu peux arriver à faire ça avec un bon esprit. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant que groupe, on n'a pas de tourneur, on s'autogère entièrement, on n'a pas de prix en fait. Quand un organisateur nous contacte, voilà, ça coûte combien, etc. Mais non, on n'a pas de prix. Tu nous expliques la mécanique économique de ce que tu veux faire et ensemble, les organisateurs et le groupe, on va trouver le juste prix. Autant pour les organisateurs que pour nous. Pour moi, c'est ça, l'économie alternative. Et c'est ça la grande différence avec les groupes qui sont avec un tourneur. Parce que quand tu es avec un tourneur, tu es sur un catalogue avec un prix. Comme à la Redoute, comme aux Trois Suisses. Donc si tu veux, alors c'est sûr qu'en fonctionnant sans tourneur, on n'a pas accès aux grandes villes. Parce que les grandes villes, si tu veux, les grandes salles travaillent avec les tourneurs de façon très simple. Maintenant, les organisateurs ne se baladent plus dans les concerts pour trouver le groupe. Ils ouvrent un catalogue, il y a les prix, ils calculent leur budget et c'est comme ça. Donc nous, comme on n'est sur aucun catalogue, ils ne nous contactent jamais. Mais nous, c'est pas grave, on fait comme les Indiens, on tourne autour. On tourne autour des villes, on joue dans les banlieues et dans les petits villages et c'est très bien comme ça.
Vous avez fait des grandes scènes quand même, des grandes villes. Ouais.
On en fait aussi, mais tu vois, par exemple, tu vois, on joue dans des grosses salles, mais pas forcément dans des grandes villes. Bon, on peut jouer effectivement dans des grandes villes aussi, ça le fait. Mais par exemple, le fait qu'on ne soit pas intermittent, légalement, on ne peut pas jouer dans une SMAC. Les SMAC, c'est les salles financées par la DRAC, c'est-à-dire par l'État français. En n'étant pas intermittent, on fait du tort aux professionnels. Bon, ça fait 49 ans que je joue en concert. Mais à part ça, on fait du tort aux professionnels. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on peut jouer dans une SMAC seulement si une association loue la salle. Et quand l'association loue la salle, elle n'a pas le bar, elle n'a que l'entrée. Et tout le monde le sait bien, l'économie d'un concert se fait aussi à la buvette. Donc si tu veux, Résultat des courses, les organisateurs, pour arriver à payer les groupes, sont obligés de faire des entrées chères, ce que moi je trouve inadmissible. Je pense que les concerts pourraient être gratuits parce que ce n'est pas aux entrées en fait que ça se passe, c'est à la buvette et à la restauration. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un concert gratuit, tout le monde vient. Nous, on en fait énormément en Bretagne. Et c'est là que tu as énormément de monde. Parce que là, les gens, ils viennent en famille. Et du coup, comme ils sont contents parce qu'ils ne sont pas pris pour des vaches à lait, hein, ils lâchent le petit billet à la restauration. Et en fait, finalement, l'économie, elle est énorme parce qu'il y a beaucoup plus de monde quand c'est gratuit.
Bon à rien, ta présence n'était pas prévue au départ. C'est une excellente surprise, mais ce n'était pas la première fois que tu partages la scène avec les Ramoneurs, grâce à Ellie, il me semble.
Pas grâce à Ellie. Les Ramoneurs, c'est un des seuls groupes dans le milieu que j'aime bien à cause parce qu'ils disent, moi j'ai pas les mots, ça se voit, tu vois, au micro j'ai pas les mots, et eux ils ont les mots, tu vois, ils amplifient ce que je pense souvent, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais dans ce qu'ils disent je me reconnais totalement, tu vois. Et on s'est croisés il y a peut-être maintenant 15 ans, tu vois, et puis on se croise au moins une fois par an ici ou là, tu vois. Et avec Ellie c'est particulier, c'est l'inverse. J'avais joué chez Ellie qui était dans ma région, moi j'étais dans le 87, Haute-Vienne, Limousin représente. Le pays du granit, le pays de la forêt, le pays des rivières, un peu comme chez vous, mais moins haut.
Et le pays des hippies aussi.
Alors, Laurent vient de dire le pays des hippies. Ben ouais, ben il se trouve que j'ai une cousine qui a racheté un village avec son copain, puis avec d'autres couples. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Je pense à Zoé aussi. Il y a des gens qui rachètent des villages parce que chez nous, les villages, c'est pas cher. Il y a les villages à vendre chez nous. Tu vois, c'est marrant, il y a des villages à vendre. Et il y a des jeunes qui, j'en parle souvent quand je joue, il y a des jeunes qui rachètent le village et qui retapent les maisons. Tu vois. Alors, ce n'était pas du tout ça la question. J'avais appelé Ellie à l'époque. Il avait un lieu qui s'appelait le Timbre et Posté. C'était un tout petit lieu qui était super. Et puis, ça m'intéressait. Je l'appelle, il me dit, tu fais quoi? Je dis, je suis bon à rien. Il m'a dit, t'as presque bouge. Je dis, non, pour jouer. Bon. Et puis, finalement, ça s'est fait, le concert. Il m'a programmé avec un groupe de cumbia. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on ne s'est pas lié d'amitié, parce que ce n'est pas possible d'être ami avec lui, mais on s'est liés, on s'est rencontrés. Et je trouvais qu'il valait la peine de son histoire perso. Je ne sais pas si vous en avez parlé de son histoire perso. J'ai appelé un copain journaliste pour lui demander de faire un article. Le copain, c'était le directeur du deuxième plus grand journal de Nouvelle-Aquitaine, à qui j'avais rendu des services. Par exemple, la semaine prochaine, je dois lui rentrer ses branches qu'il a coupées chez lui. Tu vois. Donc c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est par copinage. C'est l'ancien monde, le monde où tout le monde se... Tu avais des nouvelles de lui, pardon, des nouvelles... Nous, il n'y avait pas Internet dans notre monde. On se parlait, il y avait les fanzines, il y avait le Minitel. Tu vois, c'était chaud hein, à l'époque. Là, c'est un peu pareil. Et puis Ali, comme il me plaisait, donc on fait l'article, tout ça. Et puis Ali disait, putain, je fais des concerts, c'est chiant. Je dis, moi, je connais un super groupe. Moi, je le vois bien jouer chez toi, ça s'y prête. Ali, il me dit, ouais, c'est pas qu'il avait peur. Il me dit, il était un peu... Tu sais, quand tu connais pas, tu as une sorte d'appréhension. Et à un concert, je suis allé voir les Ramoneurs. Et puis j'ai dit, ouais, Laurent, après sa balance... Je dis, voilà, j'ai un copain qui a un petit lieu. Ben, il m'a dit ce qu'il dit souvent et qui peut le dire lui-même. Parfois comme des rois, parfois comme des rats. Et donc, ils sont branchés. Ils ont programmé un concert un an après. Et puis ils se sont recablés parce qu'il y a eu une annulation. Et finalement, le concert a lieu 4 jours après, chez Ellie. Et on s'est retrouvés là-bas, chez Ellie. Et puis l'année dernière, Autoli, ça s'appelle Autoli le bled. On s'est retrouvés aussi. Encore l'histoire avec Ellie. Et puis, ben, cette année, c'est ici. Voilà l'histoire...
Bah merci beaucoup. Les Ramoneurs de Menhir, vous fêtez vos 20 ans. Ça fait quoi d'avoir 20 ans ?
Alors, pour moi personnellement, j'ai pratiquement vécu tout le temps en collectif. C'est la première fois que je suis dans un collectif pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'on a passé les tempêtes, et ça c'est vachement bien. Et d'ailleurs en Bretagne, il y a beaucoup de marins, et ça c'est une expression, on juge un équipage dans une tempête. C'est là que tu vois comment les gens ils se comportent. Je trouve que c'est super. C'est-à-dire que maintenant qu'on est passé ce cap-là, on a une espèce de truc entre nous, on a une pure osmose. C'est-à-dire que y a une alchimie. C'est de la magie. Hein. C'est très fort. Moi, en tout cas, ce qui est sûr pour moi, ce sera mon dernier groupe. Parce que je sens que je suis dans la dernière énergie, qui est une belle énergie, je trouve. Parce que, tu vois, à part avoir mal partout, si tu veux, avec l'âge, ce qui est intéressant avec l'âge, c'est que tu lances plus 15 flèches, tu n'en lances qu'une. Et ça, c'est bien. Voilà, autrement, le reste, j'ai mal un peu partout, mais sinon, ça va. C'est vraiment bien. Alors, avec Eric, un des sonneurs, on se connaît depuis qu'on est jeune punk, en fait, bien avant les Berus. Donc, si tu veux, là, on pourrait dire que la graine des Ramoneurs, parce qu'une graine de menhir, c'est assez long à pousser, elle a été semée en 85 sur un maxi 45 tours qui s'appelle Joyeux Merdier, un morceau qui s'appelle Vive le Feu, où on entend à la fin une gavotte sonner. Et donc, Eric était là déjà. Donc, si tu veux, cette première graine de menhir a été semée là. Et elle est restée en gestation. Et c'est sorti en 2006, quoi. C'est-à-dire, combien de temps après ? 20 ans après, 21 ans après. Il a fallu pour que cette petite graine de menhir arrive à germer. Voilà, donc c'est vraiment, on vit vraiment, moi je suis super content. C'est le fruit un peu de toutes les choses qu'on a fait, tous. Et maintenant, on est à la cueillette, quoi, de notre verger, je dirais, musical. Et c'est vachement agréable. Et je suis très très content, on a une belle équipe. Là franchement, tu vois, si je devais mourir demain, moi, je dirais j'ai eu une belle vie.
Il me semble que l'un des membres du groupe, peut-être toi, disait qu'à un moment donné, il plantait une graine en dessous de la scène. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais.
Alors, j'ai fait un groupe dans les années 90 qui s'appelait Traumatisme. Avec ce groupe, on a joué uniquement dans des squats ou dans des lieux autogérés. On n'a jamais joué dans aucune salle officielle, on n'a jamais eu aucun article dans la presse, ça c'est hyper important, et c'est vrai qu'on avait une barre à mine, et après le concert, on faisait un trou dans la salle et on plantait un gland de chêne, on faisait ça, et aussi on avait un four à pain, c'est-à-dire qu'on enfournait le pain, et quand ça sentait bon le pain, c'est qu'il était prêt, on arrêtait le concert. On chargeait les chilums, on partageait le cannabis avec les gens et on partageait le pain. Voilà, c'est vraiment un symbole. Parce que pour moi, c'est ce que devrait être une cérémonie, c'est ça en fait. C'est un concert. Parce que dans un concert, c'est une belle démonstration d'ailleurs antifasciste. En ce moment, on est en train de vivre une période assez compliquée où tout le monde est dans le repli. Alors qu'un concert, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est uni avec ses différences. Et c'est ça, justement, la démonstration antifasciste la plus belle qu'on puisse faire. Parce que là, souvent, on dit entre dire et faire, il y a la mer. Là, c'est de la réalité. C'est vraiment concret. Donc, je remercie les organisateurs pour ça. Tous les lieux alternatifs, tous les bénévoles, surtout les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Et ce qui est intéressant avec les bénévoles, contrairement aux professionnels, le professionnel, comme son nom l'indique, fait pour le profit, et l'amateur fait avec son âme, en fait. Donc c'est ça toute la différence. Et moi, en fait, il faudrait... Le gros problème, c'est la politique. Les hommes politiques, c'est un problème. Il faudrait que la politique soit bénévole, évidemment. Il faudrait que dans les ministères, ce soit les associations qui gèrent les ministères et non pas des personnes qui sortent de grandes écoles, qui sont juste là pour leur plan de carrière. Je veux dire, par exemple, les mal logés, c'est une association qui s'occupe des familles qui sont en difficulté. Eux, ils devraient être au ministère du logement. Parce qu'ils savent ce que c'est. Et non pas une personne parachutée qui va passer d'un ministère à un autre. Donc ça, c'est vraiment ridicule. Je pense qu'on n'a rien compris. Et en fait, le fait d'avoir vécu en collectif, je pense que ce qui est intéressant dans un collectif, et dans nos groupes, on fonctionne pareil, c'est pas du tout pyramidal. C'est complètement horizontal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui va mener le groupe, mais c'est pas le chef, si tu veux. C'est le meneur. Et il est aussi important que l'homme contraire qui va être le chaman, etc. Alors que nous, dans les civilisations dans lesquelles on est, tu as le chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, et puis en dessous, tu as le peuple qui porte tout. Et ça, c'est inadmissible. Moi, je pense que tant qu'on ne sera pas dans le partage, on ne s'en sortira jamais. Nous, dans notre groupe, tout est partagé à part égale, avec tout le monde, que ce soit un technicien, un musicien, c'est exactement pareil. Et ça, c'est très important. À partir du moment où c'est équitable, là, les relations déjà entre les gens, elles sont correctes. Ce qui pose beaucoup de problèmes, évidemment. Est-ce que c'est normal que dans une entreprise, il y ait des différences de salaire astronomiques entre un cadre et un travailleur? Tu vois, Hollande, à un moment, il avait essayé, je crois qu'il a été élu pour ça, parce qu'à un moment, il a balancé, voilà, je vais essayer de faire que dans une entreprise, il n'y ait pas, entre le plus gros salaire et le plus petit salaire, pas plus de 20 fois, ce qui est déjà énorme. Et il n'a pas réussi. C'est impossible. Donc ça veut dire, là, on atteint des niveaux astronomiques. Je ne comprends même pas que les gens qui ont autant d'argent n'aient pas honte, en fait, de voir que des familles n'ont rien. C'est... Voilà.
Je vais parler d'un monde dans lequel j'ai débuté, le monde du hard rock. Nous, on appelait ça le hard rock, puis après, ça s'appelait métal. Il y a un festival en France. Donc, comme c'est mon monde à moi, je peux en parler, c'est le monde que j'aime bien, dont je suis proche. Il y a un gros festival que tout le monde connaît qui s'appelle le Hellfest. On va prendre un budget moyen du Hellfest. Un budget moyen du Hellfest sur une année permettrait. Alors, le Hellfest, ça dure une semaine ou deux, je crois. Des fois, il y a 200 groupes. Alors, Laurent dit 3 jours, mais il me semble qu'il y a des.
Sauf quand ils font venir Metallica, qui prend le budget de à peu près tous les groupes du Hellfest. C'est-à-dire qu'il n'a jamais osé dire le prix. C'est-à-dire que c'est en millions. C'est-à-dire que là, on tape dans le million. Ça dépasse les millions. Hein. Donc, si tu veux, il y a un moment où il y a vraiment un problème. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Nous, si tu veux, ce qui me gêne énormément. Bon, il y a ça, il y a des groupes où c'est complètement disproportionné par rapport au cachet, mais il y a aussi ce qui devient assez embêtant avec le Hellfest, c'est qu'ils commencent à accueillir, parce que dans la scène black metal, il y a beaucoup de nazis, et ils commencent à accueillir des groupes nazis, carrément, voilà, qui sont là sur scène, et ça commence à poser un problème, quoi, je trouve.
Et je continue juste l'économie. Parce que Laurent, il a les mots sur le reste. Moi, je ne les ai pas. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas parler. Par contre, sur l'économie, un budget d'un Hellfest permettrait d'organiser ici, là où on est là, actuellement, dans ce lieu-là, dans votre ville, à Saint-Étienne, les Remiremont, c'est ça, avec deux groupes comme tout à l'heure, tous les soirs, toute l'année, pendant 30 ans, sur le budget d'un seul Hellfest. Tous les soirs, toute l'année, pendant 30 ans. Il est où le modèle économique ? Et ça attirerait, comme ça attirerait, à peu près 3 millions de personnes, ce qui n'attire pas le Hellfest. Le modèle économique, puisqu'on parle souvent d'économie, oui, mais faut penser à l'économie. Il parlait des mérites tout à l'heure, qui ne programme pas. Ben oui, mais le modèle économique, il est ici. Il est avec nous, ici, là, aujourd'hui, là, avec tout le monde là qu'on voit. C'est ça le vrai modèle économique, il est là. C'est-à-dire, les gens, ils gagnent. Quand j'avais une asso, quand on organisait des concerts, jamais j'ai été déficitaire. Hein, parce qu'il y avait, comme disait Laurent, des bénévoles. Il y avait des bénévoles, c'était beaucoup de la passion. Ce qui n'empêchait pas de rémunérer des groupes. Il y avait un monde qui existait, qu'on appelait le monde à l'époque alternatif. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, mais après, à part ça, on peut faire... on n'a pas besoin de l'argent du Hellfest pour faire des concerts. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut faire des concerts avec rien, en fait. On peut débarquer avec une petite sono, on se débrouille, on trouve un endroit, on monte une petite scène. Là, j'ai vu, on arrivait en avance, on a vu tous les bénévoles bosser pour aménager l'endroit pour faire un concert. Ça s'est fait en une après-midi, donc c'est vraiment jouable. Après, le Hellfest, voilà, c'est la folie des grandeurs, c'est ça le problème. Et après, bon, c'est pas pareil, moi je ne veux pas non plus en parler trop. Enfin bon, voilà, le blanchiment de thunes, ouais, c'est tout. Bref, j'arrête. Mais voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans un monde vraiment, franchement, le rapport à l'argent. C'est pour ça que moi je trouve ça important qu'on ait un rapport à l'argent qui soit sain, en fait. Parce que l'argent, c'est un outil, malheureusement indispensable, mais ça ne reste qu'un outil. Ce n'est pas une fin en soi.
Quand on s'appelle les Ramoneurs de Menhir, Bon à Rien ou Culture Bat, il y a un ciment commun, c'est exactement ce que vous venez de dire, rester indépendant et fidèle à ses valeurs à travers les époques. Face à l'industrie musicale actuelle, qu'est-ce qui est le plus dur à défendre aujourd'hui, Élie, pour rester indépendant ?
Franchement, question vaste, hein. Je ne peux pas te dire, en fait, moi je déteste le mainstream, donc à partir de là, c'est le combat permanent, quoi. Quand tu vois ce que les gens mangent, ben, c'est McDo le premier restaurateur mondial, Coca-Cola le premier soda au monde. Bon, la musique, ben voilà, Spotify et toutes les playlists pourries qu'on connaît avec l'IA en plus qui s'y met. Bon, nous, on défend la culture indépendante à bras et corps, tu vois. Et pour nous, ce qui est important, que ce soit les Ramoneurs, pour le punk, Bon à Rien, que ce soit de l'électro, du hip-hop, les cultures urbaines. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ça, défendre la culture indépendante. Les mecs qui sont encore des artisans, qui bossent chez eux, qui se montent sur scène et que tout est fait un peu DIY, quoi, voilà.
Voilà, je voulais dire un petit mot à ce propos. Donc, on a un groupe traditionnel, donc c'est-à-dire qu'on est proche de nos racines, et ça, c'est important. Il faudrait que les groupes se rendent compte d'une chose essentielle. Le rock est né dans un champ de coton. Donc, à partir du moment, tu vois, je t'en parle, j'ai les poils qui me stressent. À partir du moment où tu as capté ça, si tu veux faire de la thune, tu fais de la merde, tu fais de la variété. Ça sert à ça. Par contre, si tu fais du rock, tu te dois de respecter ta racine pivotante, ta racine pivotante, le rock est né dans un champ de coton. Donc à partir du moment où tu fais du rock pour uniquement faire de la thune, en fait, t'es complètement, c'est un détournement. C'est un détournement très très grave. C'est-à-dire que tu changes un esprit en fait. Non, nous, je pense que ça, pour nous, on est exactement, on se sent comme un groupe de blues. Que ça soit du rap, que ça soit du bon à rien, que ça soit du Ramoneur, on vient tous du blues en fait. Et ça, c'est hyper important.
Et le mouvement, moi, je trouve qu'il a repris le monde alternatif, qui a complètement dévié à un moment donné, où les gens, on le savait, on était dans les assos, nous, où les gens, ils voulaient vivre de la musique avant d'en jouer, tu vois. Ils voulaient avoir un statut, le statut d'intermittent, avant de jouer, tout simplement, avant de faire des concerts. Quand tu joues, c'est pour jouer. Et attends, Laurane, et le monde qui nous a repris, eh ben, c'est le monde des teufs, où les gens, ils ont fait comme nous, ils prennent un chant, ils mettent du son, et ils font du son, et ils font la teuf, tu vois. Mais comme ça, le punk a été créé pour ça, hein, pour jouer, pour faire des trucs, tu vois. Et c'est les teufeurs qui ont pour le moment. Et une grande preuve, c'est qu'il n'y a qu'eux qui sont agressés maintenant. C'est le monde de la teuf, le monde des teufeurs.
D'ailleurs, grosse problématique en ce moment avec ce monde de la teuf qui se veut boycotter par l'État, dont on parlera d'ailleurs dans une prochaine émission.
Alors je dirais que c'est beaucoup plus que boycotter. Il faut dire que les teufeurs se font massacrer. Ils se font massacrer la gueule, c'est pas juste ça. C'est-à-dire qu'il y a d'une violence de l'État, il faut voir que ce sont des jeunes, franchement, qui organisent des fêtes, qui ne demandent rien à l'État, aucune subvention, hein, tout est gratuit. Et ça, ça pose un problème. Parce que quand tu ne demandes pas de subvention, quand tu ne demandes rien, l'État n'a aucune prise sur toi, en fait. Et ça, l'État n'aime pas. Et c'est ça, nous, on reste indépendants pour ça, pour pouvoir être libres, justement. Bon, Ellie, là, on entend des petits mots, parce qu'Ellie est en panique générale, parce que le concert commence à 19h, et il est 19h moins 9, c'est ça?
Pourquoi 19h06, alors, ce concert?
Parce que cette année, c'est la troisième date avec les Ramoneurs, dans le troisième lieu différent, avec Bon à Rien. Voilà, donc c'est le Triskel, voilà, tu vois. Donc on a ce petit privé de joke que personne ne comprend forcément, mais qu'on a. Voilà, donc tout était par trois, donc ça tombait le 06-06-26, la place à 12 balles, 19h06, et ainsi de suite, voilà. C'était le clin d'œil.
Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose avant de partir sur la scène, du coup?
Eh bien, oui. Que les jeunes, c'est dramatique, c'est de voir les gens qui vont au Zénith, qui vont au Stade de France, voir un groupe à 200 mètres sur un écran géant. Moi, je trouve que c'est dramatique. Et pourtant, je suis fan de très gros groupes, comme AC/DC, par exemple, comme Motorhead, qui ne jouaient qu'à la fin, que sur des grosses scènes. Mais je n'ai jamais vu sur des trucs comme ça. Et qui n'ont pas la... Ce n'est pas une histoire de curiosité, mais qui même dans leur propre... Moi, je joue beaucoup dans les villages. Je suis un punk rural. Et les jeunes, ils disent « Ouais, il ne se passe rien dans les villages. » Mais quand il se passe quelque chose, ils ne sont pas là. Ils n'ont même pas la curiosité d'aller voir. Alors, c'est bien, c'est pas bien, ça, c'est autre chose. Tu peux y aller juste pour... ils préfèrent même, mais je le vis à chaque fois que je joue, une liste Spotify à la fin de ton propre concert, plutôt qu'un mec qui fait le con, tu vois. Et c'est valable pour tout, tu vois. Et ça serait intéressant, ben, encore une fois, comme les teufeurs, on s'amuse, on fout le bordel et on ne dit pas « il ne se passe rien ». Parce que si, il se passe beaucoup de choses. Parce que là, on a fait une interview assez, assez sombre, tu vois, assez dark, alors qu'il se passe plein de choses en France, mais que ça se sait pas. C'est normal, puisque l'alternative, c'est pas devant. Et pourtant, il existe, l'alternative, et là. Donc, force à tous.
Non, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. On joue beaucoup dans les villages, et il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir. Et ça, c'est vachement bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes qui viennent nous voir, il y a aussi des anciens. Et le fait de faire de la musique traditionnelle, ça parle beaucoup aux anciens aussi. Et ça, c'est hyper important.
Bah merci beaucoup, bon à rien en tout cas, de nous avoir accordé quelques minutes. Alors, les Ramoneurs de Minir, vous avez enregistré en 2025, il me semble, un nouvel album. Je me lance pour le nom, surtout sois indulgent, d'Argad Atau. Super, ça veut dire toujours au combat. C'est votre cinquième album. Vous disiez il y a quelques années que la musique et que l'art en général c'était fait pour fédérer la tribu. C'est votre façon à vous de vous battre contre les idées racistes de l'extrême droite. C'est ça, toujours au combat? C'est ça que vous vouliez dire à travers ce cinquième?
Ben oui, toujours au combat, parce que justement on a un moment dans un morceau où on dit non non non, vous ne passerez pas. Au son du biniou, la lutte sera faite. Non, 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 on ne lâchera pas. Unis par la danse et dans le combat. C'est-à-dire, ça, c'est un slogan basse que j'aime énormément. La lutte, oui, mais la fête aussi. Ça, c'est hyper important. Parce que les militants, chiants, c'est... Nous, je pense que la fête, c'est très important de passer des bons moments ensemble. La vie n'est pas forcément facile. Et je pense que ces moments-là sont vraiment essentiels, d'être juste bien ensemble et de passer un bon moment. C'est, je pense qu'on gagne. Moi, je pense que les gens racistes qui sont... Il y a un retour, on régresse en fait, le masculinisme et tout ça, c'est hallucinant. On est en régression totale sur tout. Le peu d'acquis qu'on a, on les remet en question. Il va falloir que maintenant on se bouge, parce que si on ne se bouge pas maintenant, peut-être que demain ça sera fini. Donc moi je parle beaucoup entre les morceaux, même en festival, même quand on n'a pas beaucoup de temps, et je préviens les gens. Je leur dis, moi je parle, parce que peut-être un jour je ne pourrai plus parler. Tu vois, donc je prends mes responsabilités en tant qu'artiste. J'ai un micro, on est sur une scène et j'en écoute. J'ai envie de dire des choses parce que je trouve qu'on mérite beaucoup mieux ça. Et ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est par rapport aux enfants. Parce qu'on emprunte la terre à nos enfants. Et ça ne va pas être facile de leur expliquer à nos enfants quand ils vont nous poser la question. Hey, les parents, pourquoi vous n'avez rien fait ? Qu'est-ce qu'on va répondre ? Et moi, justement, je ne veux pas rien faire. Donc, j'essaye de allumer les consciences, de faire réfléchir. C'est ça le but, en fait. Pour moi, un artiste, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que les artistes soient indépendants. Il faut qu'ils soient en marge, il faut que ça soit des marginaux pour être en dehors de la fourmilière. Parce que les gens perdent leur vie à la gagner. Donc, si tu veux, ils ne se rendent pas compte, en fait. Nous, en étant en marge... On analyse la situation. Donc, on peut faire notre rôle de révélateur photo, c'est-à-dire de dire ce qui se passe. Et c'est hyper important. C'est pour ça que je ne crois pas le statut d'intermittent. Ça sert juste à faire des bons petits soldats. Et juste dire deux mots pourquoi je refuse ce statut. Pour deux grandes choses. C'est que déjà, un, il faut démontrer à l'État français que tu es rentable économiquement. Et là, tu as ton petit pins artiste, tu peux être un grand artiste et pas être rentable, je vois pas du tout le rapport. Et deuxièmement, il y a une chose dans le statut de l'intermittence que je trouve inadmissible et je comprends pas pourquoi les artistes l'ont accepté. Un artiste ne peut pas jouer gratuitement parce que c'est du travail au noir. Alors ça, que les artistes aient accepté un statut où on les empêche de jouer gratuitement. Nous, on joue gratuitement quand on a envie, pour une cause, pour, dans une ZAD, pour, en soutien aux écoles du WAND, par exemple, ou en soutien à des militants, etc. C'est hyper important. Et voilà.
Merci beaucoup, en tout cas. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ?
C'est moi qui te souhaite plein de choses aussi. C'est vachement bien d'avoir une radio libre. C'est très, très bien. C'est vraiment chouette.
J'avais une dernière question. Si tu n'avais pas été musicien dans la vie, qu'est-ce que tu aurais fait ?
Je crois que j'aurais été archéologue. J'adore chercher, fouiner des trucs, trouver les racines des choses. En fait, en cherchant dans le passé, tu comprends mieux le présent et pourquoi on en est arrivé là, en fait.
Merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'as accordé. Puis un très beau concert, plein de belles choses à venir. Vive le punk, vive l'alternatif, vive la cohésion. Restons solidaires.